Depuis les années 60, avec en particulier Robert Solow, la croissance économique est analysée dans un cadre analytique très simple, fondé sur une fonction de production, où le PIB est fonction de la quantité utilisée et de l'efficacité de la combinaison par les entreprises de plusieurs facteurs de production. Dans les premiers modèles de croissance, ceux de Solow lui-même, on a deux facteurs de production homogènes chacun. Le capital, et le capital, c'est un capital technique, un ensemble d'infrastructures, de bâtiments, de machines, de moyens de production, et le travail. Tandis que le progrès technique qui améliore la combinaison du capital et du travail pour produire le PIB, ce progrès technique vient du ciel éthéré de la science en marche. Par la suite, d'autres modèles ont endogénéisé le progrès technique en introduisant l'imperfection de marché qu'est la diffusion gratuite de connaissances. D'autres modèles encore, suivant en cela une tendance forte des modèles économiques contemporains, qui est de tenir compte de l'hétérogénéité des acteurs, ont construit des modèles schumpeteriens, où le progrès technique résulte d'un processus endogène de destruction créatrice entre firmes, à la Schumpeter. D'autres modèles, enfin, ont diversifié les facteurs de production, en particulier en introduisant un facteur de production nature et en nommant capital humain le facteur travail, car il est susceptible d'apprentissage par diffusion des connaissances et d'investissement dans l'amélioration de ces connaissances. Et on l'associe à un quatrième facteur de production qui est le capital social. Le capital social mesure la qualité des institutions, dont dépend celle de la coordination entre acteurs et donc l'efficacité de la combinaison de tous ces facteurs. La Banque mondiale, à partir de 2000, a proposé dans un document actualisé régulièrement qui s'appelle « Where is the wealth of nations ?»« Où est la richesse des nations ?» en hommage à Adam Smith. Donc la Banque mondiale a publié une mesure de la part respective de chacun des capitaux techniques, les infrastructures, bâtiments, machines, naturels et immatériels, c'est-à-dire la somme du capital humain et social. L'accumulation de ce dernier, le capital humain et social, serait de très loin, dans tous les pays, la première cause de la richesse. Plus de 80% dans les pays avancés, c'est-à-dire ceux dont le capital humain est en bonne santé et instruit, et les institutions plutôt efficaces. Toutes les villes, les ports, les voies de chemin de fer, les machines accumulées et toutes les ressources naturelles comptent pour moins de 20% dans la richesse annuelle produite. Le cadre analytique du modèle à mes yeux idéal de croissance pourrait être le suivant. Je l'ai appelé le modèle aux élastiques. Mais c'est un simple cadre analytique. Le PIB par habitant, ou plutôt le bien-être par habitant, est accroché aux quatre piliers que sont les quatre facteurs de production par des élastiques. Et il existe entre les piliers des externalités positives de connaissances et négatives de pollution. Par exemple, l'accumulation de capital physique pollue et réduit le capital naturel. Une amélioration du capital humain, des connaissances, et une amélioration du capital social, de bonnes pratiques, est bénéfique au capital naturel. Une détérioration du capital humain et social, comme dans la tragédie des communs, où faute de s'organiser, de construire du capital social, on surexploite le capital naturel. Une détérioration donc du capital social peut détruire le capital naturel. Le capital naturel, de plus, est affecté d'effets de seuil. S'il descend en dessous d'un certain seuil, il s'effondre. Dans ce cadre analytique, le sentier de croissance optimale du bien-être est obtenu par un investissement équilibré dans les quatre capitaux qui tiennent compte des interactions entre eux et de leur dynamique propre. Un tel modèle de croissance, qui intégrerait donc pleinement de nombreuses imperfections de marché, poserait la question classique : l'État peut-il et doit-il intervenir pour corriger ces imperfections de marché, c'est-à-dire pour stimuler la vitesse de la croissance ou, et c'est surtout ceci qui est à l'ordre du jour, pour l'orienter dans un sens plus soutenable. C'est en effet tout l'enjeu des politiques dites de croissance verte. Affecter les investissements publics et orienter les investissements privés vers une accumulation de capital technique, humain et social qui préserve et augmente le capital naturel.